Parole d'auteur. Parole d'auteur. Geneviève Furnemont.
Bonjour à tous, parole d'écrivain sur Radio Présente. Je suis Geneviève Furnemont, vous avez l'habitude d'entendre notre divine Monique Fauché. Monique est partie se reposer quelque temps. Elle nous a accompagnés pendant de nombreuses années et nous sommes plusieurs à la remplacer. Alors moi, je vais m'occuper essentiellement de ce qui est lié à l'art. Je vais vous présenter des artistes, des éditions d'artistes. Je vais vous présenter des ouvrages d'art ou des biographies d'artistes. Je suis historienne de l'art et donc nous allons plutôt aller dans nos rencontres vers tout ce qui tourne autour de l'art. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe qui me passionne et qui s'appelle Emmanuel Teclès. Emmanuel Teclès, bonjour.
Et bonjour.
Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute première émission. Ravie d'accueillir un photographe aussi, puisque souvent quand on parle d'histoire de l'art, on reste cantonné à la peinture, la sculpture, l'architecture. Et je suis très contente de promouvoir votre travail. Alors pourquoi est-ce que je vous ai demandé de venir aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai découvert votre travail par certains de mes amis qui étaient venus vous voir à Art3F. On parlera d'Art3F tout à l'heure. Et j'ai été bouleversée par la poésie qui se dégage de votre travail. Alors ma première question, elle va être très très simple et presque enfantine. Je voulais savoir si vous vous souvenez quand vous avez pris votre première photo.
Absolument. Alors justement, ça commence à remonter à quelques années. On doit être aux alentours de 2009-2010. Alors j'étais dans les Pyrénées, je me suis retrouvé devant un paquebot de pierres qui n'est autre que la gare de Canfranc qui a été construite sous Franco et abandonnée très rapidement. Et au final, je me suis retrouvé à pouvoir pénétrer dans ces lieux-là. Et c'était une vraie cathédrale vide. Et du coup, il y avait toute une sérénité mêlée à la poussière. C'était assez beau, assez prestant et surtout... il y avait vraiment de l'émotion et c'est là que j'ai pris quelques clichés en ignorant ce qu'était la pratique photo que je fais aujourd'hui sur la banane qui s'appelle l'urbex, mais aujourd'hui je préfère appeler ça photographie de ruines. Et du coup, donc, ça fait maintenant plus de 12 ans, 13 ans que je photographie ce genre de lieu à l'abandon. Voilà. Donc là, c'est la première expérience, ça a été donc la gare de Canfranc, voilà, dans les Pyrénées.
Ok. Alors je vais peut-être insister, mais en fait, je voulais savoir, est-ce que éventuellement, quand vous étiez enfant ou adolescent, vous preniez des photos pas nécessairement d'un point de vue professionnel, puisque là, vous nous avez donné votre première photo, on va dire, en tant que vie professionnelle. Et est-ce que vous avez un souvenir d'une photo d'enfance ou d'une photo plus ancienne?
Alors, plus jeune, non, mais j'ai quand même toujours été attiré par les visuels de toutes sortes, en fait. Je n'ai pas forcément pratiqué moi-même, que ce soit de la peinture, du dessin ou autre. J'ai été après vite attiré aussi par des univers un peu fantastiques, notamment en vidéo et en filmographie. Et au final, j'ai toujours aimé ce qui était un petit peu légende des Carpates, Grand Dedans ou alors l'univers de Tim Burton. Et au final, ça m'a ramené très logiquement vers la photographie puisque avec cette technologie-là, on pouvait reproduire un peu des ambiances qu'on aime et puis aussi facilement... y mettre sa propre vision du monde, en fait. Donc en fait, la photographie, c'est plus, voilà, elle est très introspective et en fait ça part plus de quelque chose qui est en moi et pas forcément d'une inspiration extérieure, mais au moins ça peut me permettre de m'exprimer autrement.
D'accord. Alors pour nos auditeurs, je vais quand même essayer de vous situer aussi. Vous êtes né en 1981, vous êtes né à Cahors, donc nos auditeurs vont tout à fait comprendre votre attachement aussi à la région. Et on va poser une deuxième question un peu scolaire aussi. Vous êtes autodidacte.
Tout à fait.
Vous n'avez pas nécessairement de formation de photographe. Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand je regarde vos photographies, elles ont des éclairages extraordinaires, des nuances de couleurs. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de poésie, c'est tout à fait ça. Et comment est-ce qu'on arrive, en étant autodidacte, à avoir autant de subtilité dans le cadrage et dans le rendu?
Alors, il y a plein de choses. Déjà, les lieux offrent déjà une certaine poésie. Après, c'est plus mon œil qui va être sensible à ça. Donc, le cadrage va venir un peu naturellement. Et puis bon, évidemment, quand on s'intéresse un peu plus à la photographie, on voit que ben, dans certains clichés que j'ai pris, ça respecte certaines lois de la photographie. À côté de ça, être
par exemple
ben, des choses toutes simples sur les premiers, deuxième, troisième plans, les flous, les bokeh, les cadrages un tiers, deux tiers. C'est vraiment de la base de la photographie, ça. Enfin, c'est ces termes-là. Mais à côté de ça, moi, je me suis toujours un peu guidé par mon intuition et mon œil. Et puis, bon, j'ai des amis aussi qui sont photographes ou même dans le journalisme et qui m'ont dit, mais t'as toujours eu un œil, alors sans forcément que je le travaille. Après, être autodidacte, c'est faut se laisser guider par la passion. C'est aussi beaucoup de répétitions, c'est beaucoup d'expérience. Mais quand on aime, on compte pas. Donc, en fait, j'ai beaucoup photographié, beaucoup voyagé. Et puis, petit à petit, se dessine le style. L'orientation, elle se fait naturellement. Et en photographie, bon, les lumières douces, il faut se lever tôt, c'est tout.
Ah, voilà, et
donc, il y a toute une forme
de... C'est déjà une accroche pour nos auditeurs.
C'est une stratégie,
plutôt,
on va dire.
Plutôt, oui, des choses matinales.
Très matinales.
Très matinales, d'accord. Et est-ce qu'il y a, quand vous faites les développements, les tirages, il y a beaucoup de choses que vous laissez de côté?
Alors,
on va dire, allez, pour une photo que vous estimez réussie, il y en a combien qui disparaissent?
Alors, tout dépend à quel niveau. Après, quand c'est pour le plaisir personnel, on peut en garder quand même un certain nombre. Sur des voyages environ qui peuvent durer 3 semaines, je peux prendre jusqu'à 3000 photos. Mais sur du tri, si vous voulez vraiment garder le meilleur, on va être sur 4% à peu près. Donc, sur 100 photos, oui, vous en gardez 4. Mmh. Et après, évidemment, vous avez les logiciels, les ordinateurs aujourd'hui qui vous permettent un petit peu de récupérer une image brute, que l'on dit RAW en anglais, et qui vous permet un petit peu d'affiner, de retravailler les lumières, puisqu'il y a une dynamique, c'est un fichier qui permet d'être un petit peu optimisé. Mais il n'y a pas de transformation. Moi, je ne sais pas modifier
pas
les photos, ce n'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de retranscrire ce que je trouve dans l'état. Et les lumières sont toutes naturelles, il n'y a pas d'éclairage. Je travaille avec un trépied, donc c'est des poses des fois un peu plus longues s'il manque de lumière. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours suffisamment de lumière pour avoir un cliché.
Alors, c'est très intéressant aussi hein, que vous disiez effectivement qu'il y a juste 4% de photos que vous allez conserver. Alors, je vais rebondir à ce que je disais tout à l'heure sur les gens qui ne comprennent pas la photographie ou qui n'apprécient pas la photographie et qui ont l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc, ce pourcentage nous éclaire aussi beaucoup sur la dose de travail que ça représente et sur le nombre de retouches, d'esquisses, on pourrait dire, avant d'avoir le résultat qui mérite d'être montré au public. Alors, vous parliez aussi d'un trépied. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel ?
Alors, moi, j'ai un appareil photo plutôt dernière génération, hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de capteur de miroir comme ça pouvait exister. Bon, ça existe toujours, hein, mais ce que ça se faisait il y a quelques décennies. Donc, ça permet d'avoir des appareils photo quand même plus légers et puis qui ont une plus meilleure capacité à recevoir la lumière. Ensuite, un trépied, ça me permet vraiment d'avoir une stabilité. C'est un peu obligatoire si vous voulez avoir des photos d'architecture. C'est quand même mieux parce que vous faites plusieurs clichés à partir du même endroit. Vous avez des poses qui peuvent être longues, ça peut durer de 2-3 secondes, ça c'est déjà un début de pose longue, jusqu'à 10 minutes, sur les photos de nuit notamment. Si vous voulez photographier une ruine avec une voie lactée, ben, voilà, il faut des temps de pose très longs. Donc le trépied c'est vraiment l'article
indispensable. Bien.
Et après seulement ça, hein, après des bonnes chaussures de rando et pas avoir peur de la poussière et... Et voilà, déjà avec ça, on fait pas mal de choses.
Alors, effectivement, il faut aussi expliquer à nos auditeurs que vous avez bien sûr plusieurs thèmes à votre arc, mais que ce qui vous marque le plus, ce sont les architectures et les ruines. Mmh. Alors, vous parliez de faire 3000 clichés le temps d'un voyage. Donc, votre processus, je crois, c'est ça, c'est choisir un pays et puis préparer un voyage forcément hors des sentiers battus puisqu'on veut trouver des choses en ruine. Et à ce moment-là, vous partez sac à dos,
voiture obligatoire, oui.
Ouais,
effectivement,
ouais.
Alors c'est pas un seul pays. Alors quand je partais seul il y a une dizaine d'années, je partais seul, je faisais un pays avec différents lieux que j'avais pu retrouver, repérer par le biais du web, j'ai envie de dire. Donc la recherche cartographiée ou des articles, etc. Enfin, c'est vraiment la technique classique. Mais seul, c'est dangereux. J'ai eu déjà une mésaventure où j'ai eu de la chance, passer à travers un plancher dans une vieille maison. Donc, quand on est tout seul et qu'il n'y a plus de réseau, ça devient vite compliqué. Puis après, c'est aussi plus dans la notion de sécurité, de partage. Je pars avec deux amis régulièrement. Mmh. Et ça nous permet d'être déjà plus efficace, notamment aussi sur le nombre de lieux, le type de lieux. Donc, ça rend les voyages efficaces et intéressants. Et le fait de prospecter un peu, on fait plusieurs pays. Enfin, les deux dernières années, je suis parti, chaque fois j'ai fait 8-10 pays. Voilà, même si c'est des zones frontalières, j'ai pas peur de faire beaucoup de kilomètres, jusqu'à 15 000 km en un mois avec mon véhicule. Ouais. Et le véhicule, c'est indispensable puisque vous ne savez jamais où vous allez dormir le soir, et ni combien de temps va durer la journée, et ni quel point de chute vous allez avoir. C'est un total autonomie.
Vous laissez aussi guider par une éventuelle découverte.
Exactement.
Tout n'est pas balisé dès le départ.
Alors, on balise des points stratégiques de passage qui va édifier le circuit global. Mais vous pouvez avoir un lieu repéré qui est déjà en réhabilitation ou qui a été rasé. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a une évolution. Mais il y a des fois des lieux où vous avez prévu d'y rester 2 heures et puis vous y restez la journée parce que c'est juste magnifique et qu'on s'y sent bien aussi. Et au final, voilà, vous pouvez pas timer la chose comme une réservation à l'hôtel, voilà, c'est pas possible. Et puis ça fait partie de la magie des voyages. On dort en tente, on se lave dans les rivières, on mange une fois par jour le soir, mais le reste de la journée, c'est la course de 4h du matin jusqu'à 18h.
Oui, pour trouver. Voilà.
Mais pour trouver, c'est-à-dire
le bon endroit.
S'adapter aussi aux lumières. Tôt le matin sur certains endroits. Après, des fois, essayer de faire des intérieurs en pleine journée pour pas avoir trop de contraste avec le soleil. En fait, c'est une stratégie vraiment d'approche qui permet aussi d'essayer de réussir un maximum de clichés. Mais évidemment, c'est le graal de la fin, on va dire, parce qu'il y a le plaisir de l'exploration, puisque c'est vraiment le mot de la pratique. Le plaisir de se retrouver dans des endroits que peu de gens verront, c'est un vrai privilège. Les balades alentour, c'est-à-dire crapahuter, marcher, randonner jusqu'à atteindre ces lieux-là, voir des paysages aussi complètement différents, et puis surtout découvrir la culture d'autres pays. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré la Bosnie.
C'est ce que j'allais vous demander aussi. Quel est le pays qui vous a le plus marqué?
La Bosnie, j'ai beaucoup aimé la Bosnie pour son aspect multiculturel, les architectures complètement disparates, les influences communistes d'un côté, vous avez... vraiment l'architecture pays de l'Est, et puis des fois il y a aussi des minarets, des mosquées perdues dans des vallées luxuriantes. Enfin, c'est complètement peu
complètement
commun, j'ai envie de dire. On voit pas ça ici sur le sol français, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les pays de l'Est par rapport à ça.
Alors,
j'ai fait tout un tas de pays, voilà, en Europe quasiment tout.
Bien, alors on reparlera en fait de tous ces pays, mais on va passer une petite pause musicale et vous nous expliquerez après cette pause musicale pourquoi vous avez choisi les musiques que nos auditeurs vont partager avec vous. Merci.
Rahmat barusi ishinde min yashan keyin min yashe keyin 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 yashe Yeah.
Parole d'auteur. Geneviève Furnemont.
Alors nous retrouvons le photographe Emmanuel Teclès et nous allons poursuivre cet entretien. Dans Parole d'écrivain, bien sûr, il est aussi question de livres. Alors vous avez auto-édité un certain nombre d'ouvrages. Alors je suis en train d'en feuilleter un avec vous. Il s'appelle Vertigo, temps mort entre ciel et terre. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, je réaffirme l'extrême poésie qu'il y a dans votre travail, la beauté des couleurs aussi. Et alors dans Vertigo, nous sommes face à un ouvrage où il y a énormément d'escaliers. Alors on a parlé des ruines, mais dans cette ruine, vous êtes effectivement fasciné par les escaliers. Alors ces escaliers nous mènent où ?
Alors c'est vrai, j'ai une petite addiction pour les escaliers puisque c'est un vrai ouvrage central dans les ruines. D'un point de vue, on va dire, un petit peu plus rêveur, qui est quand même mon approche de la photo, c'est le symbole de plein de choses, que c'est ce que je mets justement à travers différents petits passages dans le livre.
Oui, vous faites le lien par exemple avec la suite de Fibonacci.
Oui, alors oui, parce qu'il y a tout un tas d'inspirations qu'on peut avoir, qu'elles soient philosophiques, mathématiques, ésotériques, tout ce qu'on veut, on peut retrouver dans les escaliers toutes sortes de significations. Et ce que j'ai eu la chance d'avoir vu dans les différentes villas, manoirs ou autres, ou même peu importe, des industries ou autres, des escaliers, à chaque fois il y a des ouvrages qui sont magnifiques et qui en fait qui sont vraiment l'expression même de la richesse du lieu et de son histoire. À travers l'architecture d'un escalier, on voyait vraiment quel niveau socio-culturel et économique pouvaient se situer les gens qui ont habité ou construit l'édifice.
Alors par exemple dans cet ouvrage Vertigo, est-ce que vous pouvez nous dire dans combien de pays vous avez trouvé ces escaliers ? Peut-être pas avec précision.
Alors, sans être exhaustif,
là,
ça va.
Quand je feuillette, je voyage dans combien de pays ?
Alors, vous avez je crois que j'ai même des pays très au nord, à savoir en Arctique, jusqu'à Svalbard, parce que j'ai été visiter une ville minière russe qui est abandonnée. Sinon, ça descend de la Lituanie à la Hongrie, en passant par la Pologne, la Slovénie. J'ai fait tous les pays latins, évidemment. Vous avez énormément de choses en Italie aussi.
Ouais, et dans un même ouvrage, vous pouvez tout à fait mêler des escaliers des pays baltes avec des escaliers de l'Italie.
Tout à fait. Parce que on a une espèce de croisement géographique, donc avec les cultures, les architectures qui vont être différentes selon les pays. Et puis aussi des approches différentes, parce que vous avez des escaliers de maisons, peut-être des fois même des espèces d'escaliers dans des usines. Vous allez avoir des châteaux, donc vous allez avoir toutes sortes de strates sociales aussi. Mais voilà, sur cet ouvrage, l'élément central reste l'escalier dans toute sa splendeur, dans tous ses états, on va dire. Et voilà, c'est une approche que j'ai sur les livres, puisque je le fais par thème. Donc là, j'avais cœur à faire celui-ci, parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai suffisamment pour en faire un deuxième livre.
Un deuxième, j'imagine.
Mais après, dans la ruine, effectivement, il y a tout un tas de choses, d'approches qui sont intéressantes, notamment sur la végétation. Ça peut être sur le style des intérieurs de maisons, ça peut être des extérieurs, ça peut être des usines, ça peut être des églises, ça peut être tout ce qui a été construit et abandonné par l'homme. Mmh. Après, voilà, à travers l'architecture de l'escalier, déjà, il y a aussi cette symbolique d'ascension ou même aussi de dégringolade.
Et
c'est là-dessus que j'ai voulu jouer avec ce livre en l'appelant « Temps mort entre ciel et terre » puisqu'on fait une pause entre ces deux endroits. Quoi. Voilà.
Alors moi, ce qui m'a frappé aussi en regardant vos photographies, c'est qu'il y a beaucoup de photographies d'escaliers qui sont extrêmement organiques. On a l'impression de se trouver à l'intérieur d'un coquillage, à l'intérieur d'un escargot. Ce sont des prises de vue qui ressemblent beaucoup aussi à certaines prises de vue que l'on fait dans les architectures Art Nouveau, comme chez chez Gaudi, par exemple. Alors, est-ce que vous avez, dans ce côté organique, escalier, quelque chose de primal, de fœtal? Est-ce que vous y pensez parfois?
Alors, pas nécessairement. Je me laisse un peu guider par les lignes, en fait. Donc, c'est les courbes des escaliers qui vont me guider. Après, le rendu, lui, c'est la lumière qui va en décider. Mais je reste quand même malgré tout assez frontal dans la photographie, c'est-à-dire vraiment sur des cadrages de face ou alors verticaux, vraiment en bottom view comme on dit, c'est très orthogonal. Cela dit, voilà, il y a tout un tas d'escaliers et tout ce qui laisse transparaître et qui donne vraiment des sensations différentes. Le côté organique, oui, je pense que les lignes, les courbes, ça a été façonné par l'homme. Donc il y a un moment donné, dans la création lui-même et l'architecture des escaliers, on peut après s'initie beaucoup de choses.
Oui. Alors, je vais aussi rebondir sur votre terme d'orthogonal. C'est très bien aussi, puisqu'on se rend compte là qu'on peut cadrer une photo comme on fait une composition de tableau et que tout cela, bien sûr, n'est pas dû au hasard. Je le rappelle, la photographie est un art et il y a des lignes, des compositions, des couleurs comme dans une peinture. Alors ensemble, on va évoquer aussi, puisque vous avez un site, et que c'est un site assez addictif. Moi, je sais qu'une fois que j'y mets la main et le doigt, j'ai un petit peu de mal à m'en défaire. Alors, je voulais savoir, vous avez beaucoup de photos, vous avez mis des titres. Alors, comment vous viennent les titres?
Alors, bonne question. Alors, le titre, en général, je mets 5 secondes pour le trouver, mais parce que c'est intuitif.
Intuitif et c'est immédiat. Il n'y a pas des choses où vous êtes dit, j'ai pas de titre, je verrai ça après. Vous avez des choses qui vous viennent.
Alors, en fait, ça ne sert à rien de réfléchir des fois trop longtemps, mais c'est un appel un peu méta, je vais dire, c'est un peu au-dessus. C'est-à-dire que si le lieu, si je vais avoir fait une jolie villa peinte en Italie, je vais avoir envie d'y mettre un nom latin bêtement, mais ça ouvre des portes sur des titres un peu plus originaux. Et ensuite, des fois, on peut rester très proche de ce que c'est, mais bon, j'aime toujours, j'aime donner un titre vraiment un peu particulier à la photo, puisque déjà, moi, ça va être un bon moyen de lui donner son corps, son âme, et puis de m'en rappeler surtout.
D'accord. Et est-ce que parfois, il y a dans ces titres une adéquation entre ce que vous êtes à ce moment-là, ce que vous ressentez à ce moment-là, un peu comme un artiste peintre qui ferait passer quelque chose de sa vie privée à l'intérieur
absolument,
d'une photo?
Absolument, les humeurs sont présentes dans les photos et dans le traitement aussi.
Ouais.
Effectivement, on a des tendances, comme même les peintres, j'imagine. On va avoir des périodes où on va vouloir faire des choses, des rendus un peu plus froids, un peu plus introvertis. Les titres doivent être certainement aussi inspirés de ça. Et d'autres, non. Des fois, c'est plus chaud, c'est plus... c'est des couleurs plus latines, j'ai envie de dire. Mais effectivement, les humeurs sont très présentes sur... pas uniquement le titre, mais surtout sur l'aspect de la photo.
Ok. Alors, autre ouvrage que j'ai sous la main et que nos auditeurs pourront retrouver sur le site de Radio Présence, c'est un ouvrage qui s'appelle Carlingue. Alors, dans Carlingue, racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans Carlingue?
Alors, Carlingue, là, comme vous l'avez dit là, précédemment, la composition dans une photo, elle se réfléchit par les angles, mais aussi surtout par la recherche de couleurs, de textures. Et dans les plans, on a le jeu des textures qui est intéressant. Moi, je suis quand même bien attiré par la végétation de manière générale, mais le vert et la rouille, ça marche bien aussi en termes de complément couleur. Et effectivement, dans l'abandon, le véhicule qui est une consommation de l'homme aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'épaves que j'assimile à des squelettes un petit peu répandus sur les territoires, mais qui peut des fois offrent des jolis spectacles. On va peut-être pas après aborder la pollution que ça peut générer, mais ça en fait partie. Mais bon, en termes de clichés, la rouille, je trouve que c'est une matière noble, puisque c'est la nature qui exerce, et mélangée à la verdure, voilà, je trouve que ça, c'est un résultat assez détonnant. Et Carlingue, c'est l'ensemble des véhicules que j'ai pu découvrir.
Oui, c'est ça, dans Carlingue, il y a
toutes catégories confondues,
des bateaux,
des avions,
trains,
des trains, des voitures.
Des voitures. Avions.
Ouais. Tout ce qui peut, voilà, à un moment donné, qui a servi à l'homme, qui n'est que souvenir, mais qui n'est que aussi trace de métal un peu.
Alors c'est intéressant aussi que vous parliez de la rouille, parce que je vais encore faire un parallèle avec l'histoire de l'art en général. Beaucoup d'architectes depuis les années 80 et beaucoup de sculpteurs utilisent maintenant un acier corten, qui est un acier qui prend l'apparence de la rouille, mais qui ne rouille pas vraiment, qui est un acier auto-patiné. Et donc, du coup, vous êtes là aussi tout à fait dans le courant de l'histoire de l'art avec ce goût des matériaux. Alors, on parle d'escalier, on parle d'architecture, on parle de moyens de transport abandonnés. Et il y a vraisemblablement une question qui va venir dans la tête de nos auditeurs. Et les gens, vous photographiez aussi les gens. Oui. Alors, sur votre site, effectivement, il y a des portraits. Alors, quand vous faites des portraits ou quand vous photographiez des êtres humains, ça se passe comment ?
Alors... Alors, je vais commencer par l'aspect technique. Alors, c'est-à-dire que, et puis de manière très subjective, j'ai pas voulu au tout début photographier des gens pour vraiment les mettre au premier plan. J'ai voulu mettre de l'humain sur les photos pour l'aspect réhumanisation et surtout pour redimensionner l'échelle d'un lieu abandonné. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de l'espace, de la grandiloquence que ça peut être quand on s'y retrouve nous. Donc, j'ai commencé à faire des autoportraits, c'est-à-dire vraiment des backstage, j'ai envie de dire.
Pour donner l'échelle.
Voilà, pour donner l'échelle dans laquelle je me mets en scène, mais en silhouette. J'adore l'anonymat, donc la plus belle manière de le faire, c'était une silhouette noire sur un espace légèrement éclairé en contre-jour. Ça permettait d'amener quelque chose à la photo. Et puis, donc voilà, je voulais pas dépasser ce cap-là. C'est-à-dire, si je mettais quelqu'un, c'était pour dimensionner. On est à l'interface du modèle et du lieu sans personne, mais je reste à la limite. Et après, évidemment, comme je vous l'ai dit, mon inspiration sur Tim Burton, sur aussi, on vous parlait de poésie, sur Mathias Malzieu, qui est un écrivain que j'adore et dont je suis fan du groupe Dionysos depuis plus de 20 ans. Ça m'a amené aussi un univers un petit peu créatif où tout ça se mêle et se rejoint. Et je suis étant très inspiré par tout ce qui est un petit peu fantastique aussi, même sur des légendes plus anciennes et pas contemporaines. J'aime un peu transformer la notion de modèle avec mon univers. Donc j'ai fait pas mal de photos avec des modèles avec différentes catégories où je mets plutôt en avant la femme parce que je trouve que pour moi c'est quand même, je suis plus inspiré on va dire. D'accord. Et surtout pour les tenues qu'elles peuvent porter.
Alors nous allons reparler de tout cela, on va refaire une petite pause musicale et vous nous expliquerez après cette pause musicale le rôle de la féminité dans votre travail et comment la musique vous accompagne. Merci beaucoup Emmanuel.
Parole d'auteur. Geneviève Furnemont.
Nous retrouvons Emmanuel Teclès après cette pause musicale. Alors je suis ravie aussi que dans cette émission Parole d'écrivain, nous ayons ces pauses musicales parce qu'elles nous disent beaucoup des gens que nous invitons. Et j'ai adoré découvrir parce que les trois musiques que vous avez choisies, je ne les connaissais pas. Et donc j'ai adoré les découvrir. Alors comment fonctionnent ces musiques au sein de votre travail ?
Alors la musique, c'est vraiment une part très importante du voyage, déjà pour commencer, parce qu'elle nous accompagne, elle nous inspire indirectement, elle nous rassure, c'est le moment de pause aussi quand on est entre deux points de visite, d'exploration dans le véhicule, c'est aussi un repère. C'est des musiques, celles que j'ai choisies, c'est vraiment des musiques qui m'accompagnent depuis des années, parce qu'elles sont pas toutes jeunes, mais j'ai toujours plaisir à les réécouter parce qu'elles me mettent dans un état d'esprit, dans une ambiance.
D'esprit, oui.
C'est de l'électro, on va dire un petit peu de balade, c'est un peu envoûtant et très aérien. Et quand, comme je le dis souvent, quand je pars en voyage comme ça, c'est vraiment un voyage dans le passé, j'ai l'impression d'un peu m'élever un peu ailleurs, je vais vivre mon rêve à ma manière en fait. Et voilà, c'est un petit voyage hors du temps. Et ces musiques accompagnent bien. Et puis quand on les retrouve aussi, quand on rentre chez soi, quand on se met un petit peu à regarder le travail accompli, reprendre les photos, les sélectionner, les trier, voire les retoucher un petit peu. Voilà, elles nous maintiennent dans ce bain un petit peu, créatif aussi du coup. Donc c'est un très bel accompagnement. Donc j'en écoute énormément. Mais j'ai quelques musiciens fétiches qui, eux, sont toujours partie de la balade en fait. Voilà.
D'accord. Alors avant cette pause musicale, on parlait effectivement un peu de féminité. Là aussi, je vais reprendre les mots qui sont sur votre site. Avec vos modèles féminins, vous parlez de grâce, de naturel, un peu de fantastique aussi. Alors comment est-ce que vous choisissez ces modèles qui vont accompagner votre définition éventuellement d'une architecture ?
Alors, il y a plusieurs choses déjà sur l'aspect philosophique et même, on va dire, bon, pas technique, mais naturel, on va dire. Je préfère photographier les femmes parce que je trouve que c'est déjà plus beau, ne serait-ce qu'en tenue, de corps, les ports de tête,
les courbes, etc.
C'est toujours plus gracieux. Et je trouve qu'elles se prêtent plus facilement au jeu parce qu'il y a, les mannequins femmes sont plus nombreuses. Après, certains suivent mon travail, donc je propose des collaborations. Moi, je ne suis pas du tout sur l'aspect pécunier à ce niveau-là. Et c'est vraiment une collaboration où on vit une expérience un peu parce que certains le voient comme ça, moi aussi, du coup. Et puis, tout le monde, en fait, est gagnant. Moi, je peux avoir... l'occasion d'aller au bout d'un projet sur une tenue, une ambiance, un lieu. Mm-hmm. Et le modèle, si toutefois elle suit mon travail, aura un cliché avec moi. Alors il y en a certains qui sont contentes, d'autres qui ne connaissent pas mais qui se laissent tenter. Voilà, je n'ai pas photographié non plus énormément de monde, mais voilà, j'ai quand même pas mal d'idées. J'essaye de sillonner entre différents styles. Et l'aspect fantastique, c'est vraiment aussi pour rejoindre un peu mes univers sur des grandes râpées, des modèles qui sont surélevés. Donc, il y a un côté un petit peu aux frontières de l'humain, mais qui reste, on va dire, poésie froide. Alors, des fois, on n'est pas sur du fantôme ni du monstre, même si j'adore la thématique fantôme. Mais on essaye quand même d'avoir quelque chose qui reste féminin et très interrogatif. Quoi.
Alors, dans vos bases et dans les choses que vous aimez, vous avez cité effectivement l'univers de Tim Burton. Ceux d'entre nous qui s'intéressent au cinéma comprendront tout de suite l'atmosphère un peu étrange. Vous avez cité aussi l'écrivain et chanteur Mathias Malzieux. Et vous parlez dans votre site, vous citez un terme anachrone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer anachrone?
Anachrone, ça va être le mot qui résume un peu tout, à la fois mon travail, mes envies, mon état d'esprit quand je photographie. Moi, je suis une nature très nostalgique déjà de base. Et en fait, de me retrouver dans des lieux qui ont existé, qui ne sont plus, mais essayer de les photographier, c'est un peu un va-et-vient entre le présent et le passé. Et puis, il y a un peu de futur aussi, puisque avec la photo, ça sera pour la postérité. Mais l'anachronisme est intéressant puisqu'on retrouve des lieux qui sont des capsules temporelles et qui peuvent avoir 20, 30, 50, 70 ans et qui sont encore en l'état aujourd'hui. Et le côté anachronique me plaît, puisque moi, je débarque dans ces lieux avec ma technologie actuelle de mon appareil photo, et je suis moi-même le fantôme de ces propres lieux, puisque ces lieux n'ont pas bougé, donc je suis quelqu'un qui vient du futur pour ces lieux-là. Et j'aime savoir naviguer, on va dire, entre les époques, avec juste... les strates de poussière au sol, les objets, tout ça qui me rappelle l'ancien temps, des choses que je n'ai pas connues et des époques à laquelle j'aurais voulu certainement vivre. Et je suis quand même très très fasciné de manière générale par l'époque victorienne et baroque gothique, un peu ces époques-là, notamment aussi sur l'aspect vestimentaire.
Oui, c'était ça aussi, on peut rebondir en fait sur les modèles. Le point commun de tout ce que vous venez de dire avec les modèles, c'est que vous travaillez aussi beaucoup sur le drapé. Et donc
exactement.
Vous avez une inspiration qui reste effectivement très, très baroque par rapport au drapé ou très éclectique par rapport, on va dire, aux grands opéras du 19e siècle. Et on retrouve cette ambiance.
Après, évidemment, c'est dévié par des accessoires, des objets qu'on va voir là, ou une coiffure ou un maquillage. Mais l'inspiration sur la forme, la silhouette de loin, on va dire, va venir de cette vision, de cette représentation que j'ai. Et du coup, ça m'oriente un petit peu. C'est inconscient, certes, mais au moins, il y a une idée avec un projet derrière, quoi.
D'accord. Alors, ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui, après, vont aller peut-être faire un tour sur votre site, on peut retrouver toutes les informations sur le site de Radio Présence, mais déjà, en fait, pour aller sur ce site, vous tapez TechProd, T-E-K-P-R-O-D, et vous allez trouver une partie du travail d'Emmanuel Teclès. Alors, moi, je vais sur votre site, je tombe amoureuse de votre travail, je voudrais un tirage d'art, je fais comment ?
Alors pour l'instant, alors tout est en train de se mettre en place parce que j'ai réussi à mettre en ligne une boutique qui est automatique. Alors boutique automatique, je m'explique, c'est vraiment, je travaille avec une imprimerie qui va être basée à Montpellier, qui fait du travail de qualité et qui s'appelle Arcane Imprimerie. Et du coup, les personnes qui veulent éventuellement commander une photo pourront directement depuis mon site pouvoir l'acquérir et la recevoir super bien protégée chez eux directement. Après, si toutefois la photo n'est pas disponible sur l'album qui est déjà présenté à la boutique, moi, vous pouvez me contacter, il y a la messagerie. Toutes les photos sont de toute façon imprimables et disponibles.
Et disponible.
Donc, il n'y a pas de problème.
Alors moi, j'ai un petit souci. Si je suis acheteur ou acheteuse et que j'aime une de vos photos, est-ce que je ne risque pas de retrouver cette photo dans plein d'endroits différents ? C'est une question aussi que les acheteurs peuvent se poser par rapport à la photographie alors qu'on ne se la pose pas par rapport à un tableau. Expliquez-nous
tout ça. C'est vrai que la photographie, c'est un peu le cas particulier. Le statut de la photographie d'art, aujourd'hui le tirage d'art, au niveau de la loi, c'est limité à 30 exemplaires. Donc c'est ce que je fais pour les photographies qui sont choisies. C'est 30 exemplaires maximum et elles sont numérotées.
Elles sont numérotées comme un tirage d'une gravure.
La traçabilité, puisque moi je fournis aussi avec sur un joli papier annuel un certificat plus un code de certification. Et je tiens vraiment à cheval là-dessus. Sur la numérotation et sur les tirages. Et de plus, l'imprimeur avec qui je travaille, lui, vous permet de choisir le format que vous voulez, la finition que vous voulez. Et il y a aussi du papier de haute qualité à 2000, pareil, avec des grammages différents. Tout à la liberté du choix du futur acquéreur.
Du futur acquéreur, oui. Et au fait, des tirages sur 10 bons aussi ?
Alors, c'est proposé aussi. Donc, tout est proposé. J'essaie de rester sur une large relativement gamme avec la qualité de cette imprimerie. Voilà.
De cette imprimerie particulier. Alors, vous exposez, bien sûr. Alors, j'ai dit que je vous avais découvert par l'intermédiaire d'Amni Art 3F. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre actualité, où vous allez exposer et où on peut venir vous voir ?
Alors, effectivement, Art 3F, c'est quand même un joli salon d'envergure nationale, voire un peu plus. Donc, c'est l'endroit vraiment pour la rencontre qui est intéressante. Il y a beaucoup de passages. Après sur Toulouse, j'ai diverses actualités. Je suis aussi exposant permanent au domaine de Montjoie à Montville, qui est un hôtel d'art. Et ensuite, j'essaie de faire des actualités un peu plus ponctuelles sur une quinzaine ou un mois, dans des lieux qui sont vraiment attraits à la culture. Là, j'ai quand même une chose intéressante, c'est d'être dans la galerie Saint-Orens Je vais avoir au mois de novembre et décembre environ 20 mètres sur 3 mètres pour exposer mes photos sur un lieu de passage. Donc moi j'aime bien faire quand même des tirages en grand format pour interpeller, donc c'est toujours intéressant de montrer ça comme ça au tout venant, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas forcément adeptes à la photographie ou à l'art en général. Donc ça c'est intéressant déjà de voir de quelle manière mes photographies peuvent les interpeller. Et ensuite, voilà, je cherche. J'ai des projets aussi avec le magazine Clutch, peut-être pour faire des événements sur le couvent des Jacobins, mais ça,
oui,
ça sera à long terme.
Oui,
ça
c'est
sera
à long terme. En fait, aussi, il y a aussi beaucoup d'articles dans la presse.
Alors,
hein, qui sont.
Quelquefois, j'ai eu quelques articles, effectivement, voilà, pour relayer les actualités. Mais voilà, après, j'aimerais évidemment pouvoir accéder à faire une exposition spécifique au Château d'Eau, par exemple, ou
oui, des lieux vraiment. Des lieux qui sont vraiment dédiés à la photographie.
Exactement, mythiques. Aussi, il y a un magasin de photographie. Je ne sais pas si je peux le citer. Moi, je ne le cite pas, qui est sur les quais du canal, un grand magasin de photographie spécialisé dans lequel j'expose aussi régulièrement. Et voilà, c'est sympa.
Donc, on peut effectivement venir voir votre travail à Toulouse assez facilement. Et vous prévoyez éventuellement des expositions aussi sur le courant de l'année 2023.
23, oui.
Alors, nous allons faire une troisième pause musicale. Merci beaucoup, Emmanuel.
Parole d'auteur. Geneviève Furnemont.
Nous retrouvons le photographe Emmanuel Teclès. On a parlé de vos ouvrages, on a parlé de vos thématiques, on a parlé des pays qui vous avaient marqué. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus personnel et que vous nous fassiez part de vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en situation, que vous allez prendre une photo? Quels sont vos sentiments mêlés?
Effectivement, le mot émotion et adrénaline, c'est deux mots clés, on va dire, de la photo d'exploration, puisqu'outre le voyage, la culture, l'aventure, on pénètre dans des lieux qui restent quand même bien qu'abandonnés, privés, et des fois on découvre l'intimité passée par le biais d'objets. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est un peu les fantômes qui laissent quelques traces de pas sur ces lieux-là, mais ça procure énormément d'émotions, il y a un peu de peur, un petit peu, mais là, de l'excitation, et on le ressent. J'ai souvent la chair de poule quand je rentre dans un endroit, ou l'estomac qui se soulève, et là, on a l'essence qui se... comme un animal instinctif, en fait.
Plus aiguisé.
Le moindre bruit, on peut vite se poser des questions. Même l'odeur se décuple, donc on sent aussi les lieux qui ont été enfermés pendant longtemps.
Oui, et on là, retrouve on... ce côté cinématographique aussi, du
exactement.
Coup, on peut se faire des petits scénarios. Ouais.
Totalement, puisque même dans ma vision de la photo, j'aime mettre, entre guillemets, une espèce d'angle de vue cinématographique, notamment avec les modèles aussi, puisque j'aime bien, on me l'a déjà eu dit ça, ça a été le plus beau compliment que j'ai eu, c'est... en une photo, ça raconte une histoire. Et c'est vraiment ce que j'aime bien aussi, puisque j'essaye de retranscrire le plus fidèlement possible ce que je vois, ce que je ressens dans les lieux. Mais ce petit
ça
côté...
Ça marche. Je vous le dis, ça marche. On ressent tout ça quand on regarde
ce petit côté peur, voilà, peur et adrénaline, frisson, voilà, frisson aussi. C'est intéressant. C'est intéressant à vivre.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire mal recevoir, parce que ce sont des lieux abandonnés, mais peut-être pas toujours complètement abandonnés? Est-ce que parfois vous avez eu des difficultés sur un lieu?
Alors oui et non. Alors c'est-à-dire que c'est tout simple. Quand les lieux sont bien abandonnés mais fermés, bien on rentre pas, donc j'ai pas de difficultés. Je suis quand même d'éthique de respect du patrimoine. Et après, vous avez des lieux qui sont totalement ouverts aussi. Mais voilà, j'ai pas de mésaventures. Je me suis fait peur deux fois, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a une maison une fois où j'ai senti quelque chose de particulier. Vous sentez qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Et vous avez l'autre colonne qui tombe bizarrement de l'armoire. Donc ça répand le parfum de l'ancien occupant. Et là, on se dit, il y a quelque chose de bizarre qui se passe et on ne se sent pas bien. Donc là, je me souviens que je n'ai pas fait de photo ce jour-là, je suis sorti. Donc ça m'a marqué.
L'émotion était trop forte pour continuer à travailler.
Et c'est là que le cerveau prend le relais, parce qu'on s'imagine tout un tas de choses. Même forcément, on ne croit pas forcément à tout un tas d'entités, je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai que là, émotionnellement, ce jour-là, c'était bien pesant. Et puis des fois, vous croisez... Alors, je me suis retrouvé à Bilitz, en Allemagne, dans un ancien hôpital à côté de Berlin, qui est tellement grand que vous avez aussi des fois d'autres photographes que vous croisez. Et il y a ce jeu de cache-cache où vous voyez passer une ombre au bout d'un couloir qui est à 100 mètres. Vous ne savez pas si c'est de la poussière, vous ne savez pas si vous avez bien vu, vous ne savez pas. Donc en fait, quand il s'installe un jeu de cache-cache entre les deux pendant un moment... Eh bien, vous ne savez plus, en fait...
Ces lieux ne sont pas si inhabités que cela.
Je me suis retrouvé avec un grand-duc aussi qui m'est passé sur la tête en sortant d'un couloir en Pologne. Pareil, c'est impressionnant. Il y a des rencontres extraordinaires. Beaucoup d'animaux, souvent même, qu'on retrouve dans ces lieux un peu isolés. Et là, ça a aussi un autre charme, effectivement, parce que là, on voit que c'est vraiment dans l'oubli, quoi.
Alors j'ai vu aussi dans certains de vos ouvrages, de temps en temps, il y a des bassins, il y a des piscines, piscines abandonnées. Est-ce que vous auriez suffisamment de photographies pour faire un ouvrage sur les piscines abandonnées?
Alors, probablement oui. Maintenant, ça ne va pas être l'axe qui va me faire le plus vibrer.
D'accord.
Mais c'est un artefact de richesse, la piscine. Donc c'est pour ça que c'est aussi présent sur les photos. Puisque tout le monde n'a pas forcément une piscine.
Oui, ça dit quelque chose du lieu.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est après de voir le côté ostentatoire de certaines piscines dans certaines maisons, par exemple en Italie, qui avaient l'air d'avoir un passé plus mafieux qu'autre chose. Donc, c'était l'ostentatoire de la piscine. Et puis, vous avez aussi ces bassins communistes, très brutalistes, cimentés, blocs, qui rappellent un certain régime. Vous avez... Donc, c'est pareil. C'est lié à la culture. Toute l'architecture est liée à la culture.
Ça dit aussi beaucoup de l'histoire du pays.
Et ça, on le ressent, on le voit.
Ou de l'histoire de la maison dans laquelle vous êtes.
Donc, c'est un élément intéressant aussi à photographier, comme d'autres, voilà.
Et dans les pays que vous aimeriez visiter, puisqu'on a bien compris qu'il y a toute l'Europe, la Russie, dans les pays que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous avez comme projet à plus ou moins longue échéance?
Moi, j'aimerais faire un maximum de pays sur les 5 continents. Après, je vais être plus attiré peut-être par un lieu plus précis. Ça peut être une ville particulière. C'est vrai que j'aimerais faire la Namibie comme pays par rapport à ce qu'elle offre de manière générale, que ce soit les déserts, les animaux, les oasis. Il y a aussi un cimetière de bateaux abandonné dans le sable. Donc voilà, ces espèces d'images oniriques complètement fantastiques, mais comme offre une réalité qui est actuelle. Donc ça, j'aimerais le photographier. Et d'autant plus que je fais de la photographie avec drone depuis un an maintenant, et ce qui me permet d'avoir aussi de nouveaux clichés.
Un autre aspect de votre travail.
Et l'orthogonal, plutôt que de l'avoir par en dessous, je l'ai par-dessus maintenant.
Par-dessus.
Et ça amène aussi d'autres clichés vraiment assez spectaculaires. Mais dans l'idée, c'est de faire en fait une espèce de cartographie mondiale de villes abandonnées. J'ai commencé à en faire et j'ai un projet de 40 villes dans le monde. En fait, j'aimerais à terme, à long terme, en faire un livre sur les villes abandonnées dans le monde qui offrent chacune une histoire différente sur la raison de l'abandon et de traiter ça d'une manière un peu plus sociale sur l'abandon.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Parce que moi, quand on m'a dit « ville abandonnée », je reste un peu couette.
Vous avez tout un tas de villes abandonnées qui vont être des fois sur des origines économiques. Donc, il y en a quand même un paquet. Vous avez des villes en Italie qui ont été abandonnées parce qu'il y a eu des tremblements de terre. Donc là, ça va être géologique. Mm-hmm. Il y en a qui, comme Fukushima, qui a été abandonné par des raisons nucléaires, des catastrophes.
Ouais.
Et vous avez Cracow en Italie, pareil, qui a été délaissé, pareil, par rapport à une exode.
Ouais.
Donc vous avez plein de raisons un petit peu sociales qui expliquent ça. Et je trouve que c'est intéressant d'étudier ça et de le retranscrire en photographie, d'en faire du reportage.
Oui, en fait, vous faites de la photographie humaniste à grande échelle.
Bon, peut-être. Je suis guidé par la vieille pierre, quoi qu'il en soit. Voilà.
Oui, d'accord. Eh bien, Emmanuel Teclès, donc je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié un certain nombre d'ouvrages à compte d'auteur, notamment Vertigo et Carling. On peut les retrouver aussi par l'intermédiaire de votre site. Je rappelle donc que par l'intermédiaire de votre site, on peut éventuellement vous contacter, s'offrir peut-être un de vos très beaux tirages, que vous allez être exposé à Saint-Orens d'ici la fin de l'année, en novembre et en décembre, et que vous avez vraisemblablement une exposition qui est en cours de préparation dans l'année 2023 au centre-ville de Toulouse.
Oui.
Voilà, nous tiendrons nos auditeurs au courant de toutes ces manifestations. On vous remercie beaucoup, Emmanuel Teclès, d'être venu nous dire bonjour et à très bientôt. Merci.